2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, et nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, quelques mots de contexte. Après avoir, au chapitre 4 de son épître de Corinthiens, expliqué pourquoi les serviteurs de Dieu passent par des tribulations, l'apôtre souligne à la fin de ce même chapitre 4 et au début du chapitre 5 le fait que l'espérance chrétienne constitue un réconfort certain, un soutien pour le serviteur qui connaît l'épreuve. Il rappelle également la promesse de Dieu d'une gloire éternelle à venir, un parallèle que l'on peut établir avec Romains 8, versets 18 et suivants, où l'apôtre dit qu'il estime que les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire éternelle qui nous est réservée. On constate qu'il y a deux plateaux de balance et le poids de la balance sur lequel se trouve la gloire éternelle est beaucoup plus lourd que les souffrances du temps présent. Donc, cela constitue finalement une source d'encouragement pour le serviteur qui traverse des moments d'épreuve ou des moments de tribulation. En attendant, Paul exhorte ses serviteurs à marcher par la foi et il rappelle les raisons d'exercer un ministère. 1. Le désir de plaire à Dieu. 2. La perspective de comparaître un jour devant lui. Et 3. La nécessité de marcher d'une manière nouvelle. Et enfin, au verset 19, l'apôtre met en évidence que le ministère d'un serviteur est une mission que Dieu lui confie. Et à partir du verset 20 de ce chapitre jusqu'au chapitre 7, Paul va traiter de l'exercice de ce ministère, du ministère d'ambassadeur en l'occurrence, et c'est cette partie de passage, de texte qui attirera notre attention particulièrement ce matin. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, tout d'abord, qui est ce nous ? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Alors, en premier chef, certainement que cela concerne Paul, l'apôtre et ses compagnons d'œuvre, certainement, mais outre cela, cela s'adresse également aux Corinthiens eux-mêmes, qui sont compris dans ce nous, et par extension, nous aussi, chrétiens du monde entier, nous sommes investis de cette position d'ambassadeur pour Christ. Dans cette communauté, il y a 3 diacres, un diacre et deux, pour ne pas se tromper, hein, et deux diaconesses. Je transpire toujours en disant ça. Et Rose, Hélène et Patrick, il y a 3 anciens, 4 anciens. Mais nous avons ce privilège, autant que nous sommes ici ce matin, d'être à titre individuel les ambassadeurs pour Christ. Tu es un ambassadeur pour Christ. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? L'ambassadeur est le plus haut dignitaire de la diplomatie. Il est chargé d'une mission, il est tenu de représenter son roi, de représenter son président ou de représenter le chef d'État auquel il est soumis, ainsi que son royaume sa république ou son pays. Il est chargé de représenter son roi et son royaume dans un pays dans lequel il est installé de façon temporaire. Alors j'ai relevé quatre caractéristiques qui sont inhérentes au profil de l'ambassadeur. La première, c'est que l'ambassadeur est quelqu'un qui vit au milieu d'un peuple, d'une nation, sans pour autant lui appartenir. Première caractéristique. Deuxième caractéristique de l'ambassadeur, c'est qu'il représente son royaume, mais aussi son roi ou son chef d'État. Troisième caractéristique de l'ambassadeur, c'est qu'il est le porte-parole. Il est le porte-parole de son roi ou de son chef d'État. Il est porteur d'un message. Et enfin, quatrième caractéristique, l'ambassadeur connaît bien son pays, sa culture, les atouts de son pays pour pouvoir en faire la promotion aux gens du pays dans lequel il est installé, dans lequel il vit. Et frères et sœurs, notre statut et nos fonctions d'ambassadeur pour Christ correspondent exactement à la position de n'importe quel ambassadeur établi sur la terre. Nous avons ce privilège d'être les hauts dignitaires, les représentants non pas d'un roi quelconque, non pas d'un président quelconque, non pas d'un chef d'État quelconque, mais nous avons ce privilège d'être les hauts dignitaires du roi des rois, du Seigneur, des seigneurs et de son royaume, et ce, sur la terre. Premièrement, première caractéristique, de même que l'ambassadeur du Pérou, donc nous sommes des ambassadeurs, et tout comme l'ambassadeur vit dans une nation avec un peuple sans y faire partie, eh bien nous aussi, nous sommes des ambassadeurs qui représentons le royaume de Dieu sur la terre, dans ce monde, sans en faire partie réellement. Alors, de même que l'ambassadeur du Pérou en Belgique vit parmi le peuple belge sans être belge pour autant, et que la Belgique ne soit pas sa patrie, son pays, nous vivons dans un monde qui n'est pas, ou qui n'est plus, vraiment le nôtre. Nous appartenons désormais à une sphère céleste différente, nous dit, nous rapporte Paul encore une fois dans l'épître aux Philippiens, ou Colossiens plus précisément, chapitre 3. Nous sommes des citoyens d'ailleurs. Nous sommes des étrangers sur la terre et notre cité à nous est dans les cieux. Voilà d'où nous sommes, d'où nous venons. Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous sommes des gens de passage, nous rappelle 1 Pierre chapitre 2, verset 10 à 12. Nous ne sommes plus du monde, dit Jésus, bien que nous y sommes installés et que nous y vivons encore. Jean 15, verset 19 et Jean 17, verset 15 à 16. Et Abraham lui-même, finalement, alors qu'il était installé sur une terre, se considérait sur cette terre sur laquelle il était installé comme un étranger. Pourquoi ? Parce qu'il avait en vue, parce qu'il attendait, nous dit le texte d'Hébreux chapitre 11, cette cité dont les fondements sont solides. Cette cité qui a de solides fondements, Hébreux 11, verset 9 et verset 10. L'ambassadeur est donc un étranger dans le pays où il est envoyé. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des gens de passage. Nous vivons dans le monde sans faire partie de ce monde. Nous sommes des citoyens d'ailleurs, des citoyens d'en haut. Et l'apôtre Paul dira aux Colossiens que vous êtes assis par la foi avec Christ dans les lieux célestes. Voilà votre position, voilà notre position. Mais nous sommes encore sur la terre. Et si nous sommes encore sur cette terre, c'est, deuxièmement, pour y être les représentants de Dieu et de son royaume. L'ambassadeur pour Christ est censé parler, agir et vivre en harmonie en analogie avec la pensée divine. Son comportement, ses sentiments, ses paroles s'inspirent de ceux du Seigneur lui-même, Philippiens 2, verset 5. Paul, tout au long de ses épîtres, va mettre l'emphase sur l'importance du témoignage que le chrétien, d'une manière générale, et l'ambassadeur a fortiori, doit avoir dans ce monde. Et on voit dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 12, par exemple, où l'apôtre encourage Timothée à être un modèle pour les autres. Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Timothée était un bon ambassadeur de Jésus-Christ. Et puis les chrétiens de Thessalonique, eux, menaient une vie exemplaire et la qualité de leur vie chrétienne était connue. Ils étaient de véritables, eux aussi, ils étaient de véritables ambassadeurs pour Christ. Et l'apôtre écrit à leur sujet, « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » Ils étaient de dignes ambassadeurs de Jésus-Christ. « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » écrit Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Paul écrit encore ceci aux Philippiens, chapitre 2, verset 15 et 16, et je lis, je vais trop vite peut-être, Afin, écrit Paul aux Philippiens, que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompus parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Brillons-nous, frères et sœurs, comme des flambeaux dans ce monde. Jésus a dit à ses disciples, et c'est Éric qui l'a rappelé dans sa prière, « Vous êtes la lumière du monde ». Une lumière qui éclaire, une lumière qui guide, une lumière qui dirige, une lumière qui attire. Vous êtes la lumière du monde. Et puis, un peu plus loin, Jésus a dit aussi, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui apportez la saveur à la fadeur de ce monde. Sommes-nous ces témoins de Jésus-Christ? Pourquoi y a-t-il un ambassadeur belge en Espagne? On le sait. Il est là pour représenter notre royaume, représenter notre roi et représenter les intérêts de la Belgique. De son comportement, de son attitude, dépendra en partie l'idée que les Espagnols se feront de la Belgique et des Belges. Si l'ambassadeur de Belgique en Espagne se comporte de façon digne, de façon correcte, eh bien, il va donner une bonne image des Belges en Espagne. Et il donnera peut-être aussi aux Espagnols l'envie de venir découvrir tout le terroir qu'on peut trouver en Belgique. Mais si l'ambassadeur de Belgique en Espagne se comporte d'une façon négative, il va donner une image négative des Belges et de la Belgique en Espagne. Ainsi, par exemple, si l'ambassadeur de Belgique est invité sur un plateau de télévision nationale en Espagne, devant des milliers de téléspectateurs, et qu'il arrive en état d'ébriété et s'adresse de façon grossière aux journalistes qui l'interviewent, inévitablement, il va donner une mauvaise image de ce que sont les Belges et de ce qu'est la Belgique devant l'Espagne entière. Quelle image donnerait-il de la Belgique s'il se présentait dans un tel état? C'est la même chose s'il y avait un ambassadeur d'un pays d'Afrique quelconque qui venait sur le plateau de la RTBF avec des dreadlocks. C'est quoi des dreadlocks? Je ne savais pas ce que c'était, les tresses que font les cheveux crépus, là. Avec des lunettes noires, ça plairait peut-être à certains jeunes. Mais quelle image donnerait-il de son pays à la vue de tous les téléspectateurs qui le regarderaient et qui l'écouteraient? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez bien, c'est tout le peuple allemand qui a été l'objet du mépris, de l'opprobre et de la haine de la part du reste de l'Europe, alors qu'il n'y avait qu'un parti, le parti majoritaire, et l'armée allemande qui commettait des atrocités. Mais le reste du monde n'a pas fait la différence. Il a généralisé. Et c'est tout le peuple allemand qui a été pris, à considérer avec mépris. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, et nous, de par notre comportement, de par notre manière de parler, de par notre manière de vivre, nous donnons une idée, bonne ou mauvaise, de Jésus-Christ et de son royaume. Alors, quelle image donnons-nous de Jésus-Christ et de son royaume? Si je vis d'une façon spirituelle, je vais donner une bonne image de Dieu et de son royaume. Par contre, si je vis d'une façon charnelle, je vais donner une triste, une mauvaise image, une mauvaise idée de Jésus-Christ et de son royaume. Quelle image de Jésus-Christ et de son royaume les gens qui nous entourent se font-ils en nous voyant vivre? Combien de personnes n'ont malheureusement pas été déçus, voire découragés, de par le mauvais témoignage chrétien. On a interviewé, évidemment quand il vivait encore, Gandhi, le prix Nobel indien de la paix, quand il était en Europe, en Occident, et on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il considérait, comment est-ce qu'il trouvait le christianisme. Et sa réponse fut la suivante: « I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. » Ça veut dire « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. » C'est significatif. Quelle image donnons-nous en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre? Quelle image donnons-nous en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre? Notre témoignage est-il conforme à notre position, à notre titre, à notre statut? De quoi sommes-nous les ambassadeurs? Sommes-nous ambassadeurs de l'amour ou bien de la haine? Sommes-nous ambassadeurs de l'orgueil ou bien de l'humilité? Sommes-nous ambassadeurs de l'impureté, du désordre moral ou bien de la pureté? Sommes-nous les ambassadeurs de l'égoïsme ou bien de la générosité? Sommes-nous l'ambassadeur de l'amertume ou bien du pardon? Sommes-nous les ambassadeurs de l'agressivité ou bien de la patience? Sommes-nous les ambassadeurs de la colère ou bien de la maîtrise et de la paix? Sommes-nous les ambassadeurs de la grossièreté ou de la politesse? Sommes-nous les ambassadeurs du pessimisme ou bien sommes-nous les ambassadeurs de la foi? Le disciple de Jésus-Christ devrait être un ambassadeur qui interpelle son entourage, qui voit en lui les réalités de la vie chrétienne. Il suscite chez les autres l'envie de rechercher Dieu, de rechercher son salut, de rechercher sa paix. Troisième fonction de l'ambassadeur, c'était laquelle encore? L'ambassadeur est porteur d'un message. Et de quel message est-il porteur? Ben, du message de la réconciliation. Nous l'avons lu. Et le mot réconcilier, réconciliation, revient à 5 reprises dans les 3 versets, dans 3 versets du verset 18, 19 et 20. 5 fois les mots réconcilier ou réconciliation reviennent. C'est pour nous montrer l'importance qu'il y a d'être réconcilié, que l'homme, que le pécheur soit réconcilié avec son Créateur, avec Dieu. S'il y a besoin d'une réconciliation, c'est que il y a un antagonisme de la part de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et Dieu est venu par le mystère de l'incarnation sur cette terre, et nous l'avons rappelé à travers la louange ce matin et à travers les éléments que nous nous sommes partagés. L'image de Dieu en l'homme a été altéré, a été brisé à cause de la désobéissance et à cause du péché. Et nous avons été placés sous le joug de la colère de Dieu, sous la colère de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ et il s'est offert sur la croix comme substitut. Il a pris notre place et il a enduré la punition, le châtiment que nous méritions. Et par cette œuvre de rédemption, Dieu nous a réconciliés en Christ avec lui-même. Nous l'avons lu aussi tout à l'heure. Le mystère de l'incarnation est à l'origine de la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu nous a réconciliés avec Christ en mourant sur la croix. Par sa mort, Jésus-Christ a ainsi pleinement satisfait les exigences de la justice divine. Car Dieu est juste. Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Et mais dans sa justice, Dieu a dévié sa colère sur Jésus-Christ plutôt que sur nous-mêmes. Quel Dieu de grâce. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Là est notre message présenté, le salut présenté, la réconciliation que Dieu offre à tout homme pécheur. Dieu donne à travers l'œuvre de Jésus-Christ, à travers cette œuvre de réconciliation, la possibilité pour le pécheur repentant de voir s'ouvrir les portes du ciel. Là donc est notre message. Proclamer autour de nous le message de la réconciliation, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. L'apôtre suppliait ceux de son entourage, ses contemporains, de se réconcilier avec Dieu. C'était pour lui une nécessité absolue qui lui était imposée. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. L'amour de Dieu, écrit-il, nous presse. Nous sommes pressés par l'amour de Dieu. On ne peut pas rester muet. Il se sentait poussé, obligé de partager cet évangile qu'il avait lui-même reçu de Dieu. L'amour de Dieu nous presse. La nécessité absolue lui était imposée. L'évangélisation n'est pas une option accessoire dans notre vie. Coleman, dans son livre sur l'évangélisation, évangéliser selon le maître, écrit ceci: c'est le cœur même de ce que nous sommes appelés à être et à faire. Être évangéliste et évangéliser, c'est le cœur même de ce que nous sommes appelés à être, évangéliste, et à faire, évangéliser. C'est le cœur même de ce que nous sommes appelés à être et à faire. Quand avons-nous partagé clairement l'évangile à quelqu'un? Ce n'est pas quelque chose de gênant. Ce n'est pas quelque chose d'embarrassant. C'est quelque chose de vital pour les perdus. C'est quelque chose d'indispensable pour ceux qui se perdent, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui n'ont pas saisi sa grâce. Partager l'évangile glorieux de Jésus-Christ n'est pas embarrassant, n'est pas gênant, aucunement. C'est quelque chose de vital. Et quand avons-nous partagé l'évangile pour la dernière fois? Nous sommes des ambassadeurs, porteurs d'un message, celui de la réconciliation. Que risquons-nous en proclamant l'Évangile? Pas grand-chose, hein? On bénéficie d'une belle liberté, d'une belle possibilité d'expression, de libre expression. On dit encore ça de la liberté d'expression. Mais est-ce que nous en profitons? Vous savez, les premiers chrétiens, le mot témoin dans la langue du Nouveau Testament, Il peut être compris aussi comme le mot martyr, c'est marturios. Donc on peut le traduire aussi bien par témoin que par martyr. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'ère chrétienne, témoigner de sa foi équivalait à souffrir et être martyr. Considérons la vie de l'apôtre Paul. Dans une de ses épîtres, il dit « Je suis ambassadeur dans les chaînes ». À cause de sa foi, il était emprisonné. Considérons la vie de l'apôtre Pierre. Lui aussi, à plusieurs reprises, a été emprisonné. Considérons la vie d'Étienne, le premier diacre. Il a été lapidé à cause de sa foi. Et tous ces chrétiens qui ont été jetés dans les arènes et qui ont souffert à cause de leur témoignage. Et encore aujourd'hui, tous ces chrétiens qui, dans certaines contrées, sont jetés en prison, sont persécutés ou bien même parfois mis à mort à cause de leur foi et à cause de leur témoignage. Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs. Mais que faisons-nous de ce privilège ? Que faisons-nous de cette liberté ? Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Quatrième caractéristique, dernière caractéristique. Principale caractéristique principale d'un ambassadeur pour Christ, c'est qu'il connaît à fond le pays qu'il représente, son royaume, son roi. Pourquoi ? Pour être à même de répondre aux questions qui lui sont susceptibles de lui être posées par les personnes de son entourage, mais aussi pour faire éventuellement l'apologie de la foi chrétienne, l'apologie du christianisme. Et pour ça, l'ambassadeur pour Christ doit bien connaître le pays et le roi qu'il représente. Comment peut-il bien connaître le pays et le roi qu'il représente, sinon à travers le livre qui en parle, à savoir la Bible. Lisons-nous, étudions-nous, méditons-nous la parole de Dieu pour mieux connaître le royaume de Dieu, la personne de Dieu, la doctrine biblique, les promesses de Dieu. Est-ce que nous poursuivons à titre individuel une formation personnelle à travers l'étude de la parole de Dieu, l'étude sérieuse au moyen d'ouvrages de référence, en étant assidu à la réunion d'études ou en poursuivant l'un ou l'autre séminaire, est-ce que nous suivons une formation personnelle, individuelle, pour bien connaître le royaume dont nous sommes les représentants sur la terre, dont nous sommes les ambassadeurs, pour bien connaître celui qui nous a envoyés, Jésus-Christ ? L'importance de bien connaître son pays à travers l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Conclusion. C'est fini. Suis-je un digne représentant de Dieu et de son royaume dans le monde ? Partages-tu, ou est-ce que je partage le message dont j'ai bénéficié, l'évangile de Jésus-Christ, aux personnes qui m'entourent ? Est-ce que je connais bien le guide, le référentiel du pays que je représente ? Tu es ambassadeur pour Christ. Quelle image laisses-tu à tes amis ? Quelle image de Jésus-Christ laisses-tu à tes amis, à tes contacts, à tes collègues, sur ton lieu de travail, dans ta famille, envers tes frères, envers tes sœurs, envers tes parents, à l'école, avec tes pères ? Quelle image de Jésus-Christ laisses-tu aux personnes qui te voient vivre ? Dieu peut-il dire de toi que tu es un bon ambassadeur, que tu es un ambassadeur fidèle ? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu.